Alors, bonsoir à tous, merci d'être venus. Pour commencer cette conférence sur la fumée remplit le temple, je voulais vous raconter une parabole. Parabole d'un père de famille qui se met à préparer le repas. Tout d'abord, il sort les légumes, il les épluche un à un, il les coupe, il les met à cuire, puis il décide de préparer un dessert. Il se met à confectionner une tarte aux pommes. Il est déjà bien avancé dans la préparation et les bonnes effluves commencent à se faire sentir. Et l'un de ses enfants, le plus jeune, passe la tête par la porte de la cuisine. « Si tu veux, je viens t'aider. » Il se met à nettoyer la table de la cuisine, à mettre le couvert. Ensuite, il prépare une vinaigrette pour la salade et puis le père appelle « À table !» et tous les autres enfants arrivent ainsi que son épouse qui était en train de finir le repassage. Le père avait passé une journée difficile. Et c'est une vraie consolation qu'on vienne l'aider. Cet enfant, le plus jeune de la famille, avait pris l'initiative de venir l'aider. Et le père aurait aimé avoir le temps de finir de ranger la cuisine, qui est encore bien encombrée. Il aurait aimé préparer une décoration spéciale pour la table, parce que c'est l'anniversaire de baptême de son épouse. Mais voilà, il a manqué de temps. De fait, peut-on se demander, que faisaient les autres enfants à l'heure où on prépare le repas? Le premier faisait ses devoirs. En entendant que les gamelles commençaient à s'entrechoquer dans la cuisine, « Mince, s'est-il dit, il faut que je me mette à mes devoirs, parce qu'en fait, il ne s'était pas tout à fait mis. » Le second enfant avait passé tout son temps, depuis le retour de l'école, sur ses devoirs, et il voulait vraiment finir avant de passer à table. Le troisième jouait à la PlayStation. Il aurait bien voulu venir, mais il était en train de combattre un ennemi particulièrement féroce, le boss de l'avant-dernier niveau, et puis c'était son seul temps de la semaine au niveau de la console, alors bon. Mais au fait, les enfants, est-ce qu'ils ne devraient pas savoir qu'à l'approche de 19h, le soir, c'est l'heure où tout est à faire, ensemble, si possible, afin qu'on puisse se mettre à table? Alors effectivement, pourra-t-on dire, les trois aînés avaient une bonne raison de ne pas venir. Mais même si ce n'est pas forcément aux enfants de préparer le repas, car ce sont des enfants, est-ce que leur venue pour donner un petit coup de main n'a pas une immense valeur? Pourquoi est-ce que je raconte cette parabole? Parce que je vois le temps eschatologique comme ce repas familial. Le temps eschatologique, c'est quand le Seigneur s'apprête à revenir et que la création se prépare, les événements à l'allure catastrophique s'enchaînent, les montagnes se mettent à danser de joie, comme des signes que nous aussi, nous devons nous préparer. Mais on voit bien que dans ce temps un peu particulier, il ne suffit plus de faire juste notre devoir d'État. C'est le temps où nous sommes appelés à vivre de manière héroïque, être prêts, c'est-à-dire avoir déjà fait nos devoirs sans attendre la dernière minute, avoir rempli nos lampes d'huile. C'est le temps où on aura intérêt à avoir réduit un peu nos temps de loisirs, ou du moins à nous être habitués à les interrompre dès que nous voyons que c'est nécessaire. Sinon, est-ce que nous n'allons pas risquer nous aussi de décevoir notre Père Céleste? Est-ce que nous n'allons pas perdre l'occasion d'aider certaines âmes qui auraient eu besoin de nous dans ce temps de moisson des âmes, qui auraient eu besoin de nous pour monter vers Dieu? Car le temps eschatologique, c'est un temps où l'on moissonne des âmes. Voilà. Donc, en fait, je faisais ce parallèle parce que le Seigneur, il a besoin de nous pour sauver des âmes. C'est pas nous qui les sauvons directement, mais notre contribution augmente le nombre de personnes sauvées. C'est quelque chose d'assez extraordinaire. Il y a donc deux phénomènes qui se produisent dans ce temps de retour du Seigneur. Il y a d'abord le fumet très attirant, qui vient non de la cuisine, mais du temple. Le peu d'efforts que nous allons faire en renonçant à nous-mêmes va nous faire agir d'une manière extrêmement efficace, extrêmement adaptée au moment qui se présente. Cela va nous rendre très proches de notre Père Céleste, le fait de pouvoir réagir quand il nous appelle par certains signes que nous allons décrire. Notre Père Céleste, il va être touché de pouvoir s'appuyer sur nous. Et il va sans doute nous pardonner beaucoup si nous avions des choses à nous faire pardonner. Donc le fait de se mettre en mouvement, parce qu'on est attiré par cette fumée qui remplit le temple. Et le second phénomène, c'est une fumée qui va nous tenter dans l'autre sens, une fumée qui va nous tenter de nous tourner vers nous-mêmes, d'être trop centré sur notre devoir d'État, ou ce qu'on croit être notre devoir d'État, ou sur nos loisirs. C'est comme une fumée qui va bloquer notre capacité d'agir et d'intercéder et pour nous-mêmes et pour les autres. Voilà deux fumées, en fait, je pense, qui sont des signes des temps très forts. Deux fumées. Il y a une première fumée qui remplit le temple, c'est quelque chose d'attirant. Je prenais l'exemple du fumet du repas. Les enfants vont se dire, mais c'est génial, ça sent bon, ça me met en appétit. Et dans la vie spirituelle, ça va être ce qui est décrit dans la parole de Dieu, mais je vais y revenir, comme la fumée qui remplit le temple. C'est-à-dire quelque chose de positif. Et la deuxième fumée, c'est une fumée qui va nous tourner vers nous-mêmes. Ça va être les choses noires qu'on voit autour de nous, qui vont nous angoisser. Voilà deux fumées, qui sont deux choses qu'on rencontre. Alors, donc, ce sont deux fumées qui se présentent quand on se trouve dans des situations nouvelles, qui peuvent avoir un caractère un peu angoissant. On donnera des exemples. Des phénomènes mondiaux, des maladies, et en fait on comparera ces phénomènes-là à une montagne qui fume. Parce que dans le livre de l'Exode, quand Dieu se révèle à Moïse, avec les tables de la loi, il y a la montagne qui se met à fumer d'une force extraordinaire, et il y a la nuée, et puis il y a toute cette fumée, la grêle, le tonnerre, les éclairs. Et donc on retrouve ces deux fumées-là. Je vais utiliser ce texte-là comme élément, je dirais, pour rentrer en matière. Donc, on va faire en trois parties. La première, c'est la fumée qui remplit le temple, comme un encens d'agréable odeur. On verra que ces images bibliques montrent ce qui se passe du point de vue de Dieu, du point de vue de son projet d'amour, du point de vue des anges, des élus, des saints. En deuxième partie, on verra la fumée infecte qui monte du puits de l'abîme, des bouches de l'enfer. C'est la même situation envisagée en regardant les puissances des ténèbres. On verra que cette fumée représente notamment les rumeurs de guerre dont nous avons parlé la dernière fois, et on reviendra un petit peu dessus pour préciser, parce que j'ai conscience que c'est pas forcément évident de bien comprendre de quoi il s'agit, donc d'en parler une deuxième fois, ça me paraissait intéressant. Et en troisième partie, quels enseignements en tirer et quels remèdes concrets pour notre période? Donc la fumée du temple, la fumée noire qui monte de l'abîme, les enseignements et les remèdes. Et on évoquera aussi d'autres signes des temps, comme le fait de se dresser nation contre nation et royaume contre royaume, c'est Jésus qui parle de ça, comme le signe aussi du soleil qui s'obscurcit, de la fuite des villes, et du temps où le Seigneur fait silence. En fait, ce signe-là évoque pas mal de choses. Et j'avais une petite précision suite à vos questions de la dernière fois. Le but de ces enseignements, en fait, c'est de vous livrer des trouvailles faites dans la parole de Dieu, dans la prière, dans les lectures. Mais c'est un peu différent d'un cours de théologie, où on va s'appuyer sur des concepts précis et échafauder un raisonnement. Bien qu'il y ait un peu de théologie dedans, bien sûr. C'est plutôt un témoignage que j'essaie de livrer. Et c'est pour cela que je m'autorise à citer des personnes qui me semblent nourrissantes, par leur écrit ou par leur exemple. Même s'il ne s'agit que d'amis à moi, ou même de ma bouchère, hein, pourquoi pas. Parce que j'estime que moi ça m'a apporté des lumières, donc après tout, pourquoi pas. Chrétienne ou non chrétienne d'ailleurs. Parce qu'en fait, dans le discernement, on peut dire qu'il y a des écrits ou prises de parole qui sont inspirées, c'est-à-dire que la personne était inspirée par l'Esprit-Saint, et puis d'autres qui ne le sont pas, c'est-à-dire la personne était énervée, angoissée, ou ça contient des erreurs. Et inspiré, non inspiré, qui est à mon avis le principal critère. Et ensuite, il y a un deuxième critère, qu'on peut prendre ou pas, c'est des écrits qui vont être dits canoniques, c'est-à-dire choisis par l'Église pour être des références, comme par exemple l'Écriture sainte, ou les dogmes, ou les docteurs de l'Église. Et il y a d'autres écrits qui ne sont pas canoniques, c'est-à-dire que ils n'ont pas été choisis pour être des références, mais peut-être qu'ils sont inspirés. C'est pas forcément un mal qu'ils ne soient pas canoniques. L'Esprit-Saint n'a pas souhaité que tous les écrits soient des références. Mais du coup, je pense qu'il ne faut pas diaboliser et prendre peur si on cite des auteurs non canoniques. J'avais cité par exemple Luisa Picaretta. Je pense que quand on étudie sa vie, on discerne une grande sainte. Elle a été déclarée vénérable par l'Église pour l'instant. En fait, l'Évangile repose sur un témoignage. Donc une personne parle de l'Évangile parce qu'elle livre un témoignage et parce qu'il y a des choses qui l'ont nourrie. Donc après, soit on fait confiance à la personne, soit on ne fait pas confiance. On garde en tête, on médite, et puis on étudie la chose si on a envie de creuser le sujet, quoi. Alors, je rentre dans la première partie. Grantin, la fumée remplit le temple. La Bible évoque de la fumée, et la Bible parle de la nuée, ou alors de l'épaisseur de la nuée. Cela traduit quelque chose comme si l'on pénétrait dans la demeure sainte, et que nos yeux n'étaient pas capables de percevoir toute la richesse qui s'y trouve. On pénètre chez le bon Dieu, et nos yeux sont tellement petits, et les choses sont tellement grandes et tellement belles, que nos yeux n'arrivent pas à tout appréhender. C'est ça, à mon sens, la fumée du temple. C'est quelque chose qui va ravir nos sens, et puis nous faire éprouver de la crainte, bien sûr, mais qui va être démesuré par rapport à notre petite capacité d'aimer, et de voir, et de comprendre. Grand 1, petit 1, le projet de Dieu pour son peuple. Je vais parler ici de ce fameux passage sur la montagne, en Exode chapitre 19. Le Seigneur appela Moïse de la montagne en disant « Tu diras ceci à la maison de Jacob et tu transmettras cet enseignement aux fils d'Israël. Vous avez vu vous-même ce que j'ai fait à l'Égypte, comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle, je vous ai fait arriver jusqu'à moi, et maintenant si vous entendez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous serez ma part personnelle pour tous les peuples, puisque c'est à moi qu'appartient toute la terre, et vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte, telles sont les paroles que tu diras aux fils d'Israël. » Ainsi, Dieu rappelle ses œuvres, c'est-à-dire « Je vous ai libéré du pays d'Égypte ». Symboliquement, Dieu va nous aider à nous remémorer des choses positives qu'il a faites dans notre vie, en fait, des victoires que nous avons eues, un achat bien heureux, une personne que nous avons rencontrée, ou au niveau de notre travail. Voilà, le Seigneur souvent va rappeler ça pour dire tu vois, tu as pu t'appuyer sur moi par le passé. Eh bien, écoute bien, parce que en t'appuyant à nouveau sur moi, il va se passer des belles choses à nouveau. Et le Seigneur dit vouloir faire d'Israël sa part personnelle, c'est-à-dire que son peuple, il veut en faire un royaume de prêtres, une nation sainte. Il dit en somme, je veux que vous soyez un territoire saint, je veux que vous-même vous soyez une contrée lumineuse, comme brille la sainteté de Dieu, ou comme il dirait, je veux faire de vous un lieu protégé, je veux faire de vous un territoire infranchissable. Il y a un passage, alors j'ai pas réussi à retrouver, où il dit que son peuple est aussi proche de lui que sont les poils du corps. Et j'avais rigolé en lisant ce passage-là, parce que on imagine Dieu comme quelqu'un de poilu, et les poils qu'il a sur le corps qui ne le quittent jamais, c'est son peuple, en fait. Il y a quelque chose de très beau, en fait. Et on comprend, en fait, pourquoi il dit à Abraham qu'il peut pas s'empêcher de révéler ce qu'il a prévu de négatif, parce qu'il ne peut que parler. Quand on parle, tous nos poils entendent ce qu'on dit, quoi. J'essaierai de retrouver la référence. Alors, il dit aussi, je vais faire de vous un royaume de prêtres. Ce qui veut dire que le projet du Seigneur et que tous les hommes de ce peuple, toutes les personnes, est un accès dans le sanctuaire de l'Éternel pour intercéder pour tous ceux qui en ont besoin. En fait, quand on étudie les prêtres dans l'histoire du peuple de Dieu, l'histoire oscille toujours entre le fait que tout le monde soit prêtre et le fait que le rôle de prêtre soit centralisé sur quelques-uns. Il y a des périodes où, par exemple, au début, tous les patriarches, par exemple, jouaient le rôle de prêtre dans les familles. Et puis, au moment de l'Exode, à la sortie d'Égypte, le Seigneur a dit, puisque dans toutes les familles, vous n'avez pas de prêtres, eh bien, il y aura des prêtres, représentés par Aaron et tous les Lévites. Et puis, petit à petit, le rôle des prêtres va s'organiser. Et puis, à l'époque de Jésus, le rôle de prêtre s'était élargi, parce que beaucoup de pharisiens jouaient ce rôle-là, alors qu'ils n'étaient pas forcément prêtres. Voilà, on voit que dans les temps messianiques, quand le Seigneur s'apprête à revenir, les prêtres qui ne peuvent plus tout porter partagent leur rôle de prêtre, même à leur insu, je dirais, parce que c'est le Seigneur qui va susciter pour nous, en notre période, un rôle de prêtre très fort, qu'on va détailler. Grand 1, petit 2, la préparation nécessaire pour se tenir sur la montagne au Sinaï. L'histoire se passe le troisième mois après la sortie d'Égypte, ce qui veut dire après avoir été visité par le Seigneur dans une épreuve qu'on a subie et dont on est sorti victorieux. En fait, j'ai vécu quelque chose dans ma vie qui a été plutôt difficile, j'ai traversé, j'en suis sorti, et bien là on est trois mois après cette épreuve-là. Donc ça veut dire il y a eu un temps de maturation des grâces reçues pour le peuple. Ils ont eu le temps de revenir sur ce qui s'était passé, de tirer parti de ce qui s'était passé, de s'en remettre. Un long temps de préparation, une préparation douce, pourrait-on dire. Et dans le chapitre 19 de l'Exode, le Seigneur dit à Moïse « Voici, je vais arriver jusqu'à toi dans l'épaisseur de la nuée, afin que le peuple entende quand je parlerai avec toi. » Et qu'en toi, il mette sa foi à jamais. Et Moïse transmit au Seigneur les paroles du peuple. Le Seigneur dit à Moïse, va vers le peuple, et sanctifie-le aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs manteaux, qu'ils soient prêts pour le troisième jour, car c'est le troisième jour que le Seigneur descendra sur le mont Sinaï aux yeux de tout le peuple. Le Très-Haut va donner, dans ses paroles, des instructions pour ces trois jours de préparation. Ici, il s'agit non d'une préparation lente, mais d'un événement précis qui se présente sous les yeux des Israélites et qui a un caractère très inhabituel. C'est une montagne, on arrive devant une montagne, devant une situation nouvelle que j'évoquais tout à l'heure. Quatre points sont donnés afin d'être prêt à se retrouver devant la face du Seigneur. C'est ce que vient de dire le Seigneur, et puis la suite du texte aussi qui suggère ces quatre points. Le premier point, il faut que Moïse consacre le peuple, c'est-à-dire les purifie. Dans l'Ancien Testament, la purification passe par l'aspersion d'une eau, qu'on appelle l'eau expiatoire ou l'eau lustrale, une eau consacrée par le prêtre, qui correspond à notre eau bénite. Cela signifie, pour nous, ça va être faire des prières de réparation, étant donné qu'on est forcément bourré d'imperfections. On a besoin de finir de se purifier en faisant des prières, en disant « Seigneur, je m'humilie devant toi ». Le deuxième point pour être prêt à gravir cette montagne, c'est un point relatif à notre attitude par rapport à cette montagne. C'est ne pas monter sur la montagne, ne pas en toucher les abords, être attentif au son du shofar, de la trompette, et seuls quelques-uns seront appelés à monter. Ceux qui sont prêts, en fait. Il est dit « Quiconque touchera la montagne sera mis à mort, nulle main ne touchera le coupable ». Mais il sera lapidé ou percé de traits. Alors, je pense que cela signifie faire preuve de circonspection avant de faire la moindre chose qui sort de l'ordinaire. J'arrive devant une situation nouvelle et je m'arrête. L'adversaire, qui voit bien ce que le Seigneur s'apprête à faire, c'est-à-dire de revenir avec puissance, il utilise l'émotion suscitée par l'approche de Dieu et se tient embusqué pour tirer des flèches ou des pierres sur ceux qui agissent trop rapidement. Donc ça veut dire s'arrêter, prendre un temps d'arrêt en disant « Non, c'est pas encore le moment. » Donc je dirais un petit peu pourquoi. Et au bon moment, être prêt, car le Seigneur va peut-être me désigner pour y monter sur cette montagne. Je renvoie aux deux livres de Samuel, ou au chapitre 6, dans 1 Samuel et 2 Samuel, on a des personnages qui vont toucher ou regarder l'arche de l'Alliance du Seigneur et qui vont être frappés par Dieu. Et c'est vrai que c'est assez surprenant, on se demande, mais peut-être ont-ils cherché à bien faire. Et en fait, ils sont rentrés en contact trop rapide avec la sainteté de Dieu, quelque part. Le Seigneur les avait prévenus, attention, pour toucher l'arche, il faut être parmi ceux qui ont été formés, qui ont été choisis. Et ils n'ont pas respecté ça, et ils sont frappés, en fait. Donc Dieu qui est hors du temps veut qu'on prenne le temps pour toute chose, quand bien même la situation est angoissante et va nous tenter de réagir trop vite. Alors le troisième point devant la montagne, il est dit n'approchez pas vos femmes. Ce troisième point peut être dit de la manière suivante, c'est ne pas être idolâtre. Et je vais expliquer pourquoi. La femme en fait c'est la présence de Dieu sur la terre, dans la Bible, symboliquement. Lorsqu'on s'unit à son épouse, on réalise en miniature le don de l'amour qui se fait au sein de la Trinité. C'est-à-dire, en miniature, je devrais plutôt dire même que dans le sacrement de mariage, il y a la Trinité Père, Fils, Saint-Esprit, qui font irruption afin de faire jaillir un foisonnement d'étincelles, comme ils le font au ciel quand ils créent une âme. Il y a un embrassement, un foisonnement d'étincelles. Une âme est créée, une joie immense. Eh bien, dans le sacrement de mariage, c'est ça qui se passe. Et pourtant, Jésus dit qu'on doit, tant qu'on est sur la terre, on doit le préférer lui à sa femme, sa famille, etc. C'est-à-dire que notre épouse, qui est censée nous aider à monter vers Dieu, nous aider à nous sanctifier mutuellement, eh bien, il faut être capable de dire « je mets mon épouse ou mon époux au second plan » par rapport au Seigneur, quoi. Donc, en fait, c'est ne pas s'approcher de sa femme, ça veut dire le fait d'être complètement tourné vers le ciel, vers notre désir de perfection. Parce que c'est vrai que dans l'union charnelle, il y a toujours un peu d'imperfection. Et quand on se retrouve dans une situation vraiment qui demande beaucoup de circonspection, ça rentre dans les jeûnes, on va dire, qu'on peut faire. En tout cas, c'est ce que dit ce texte-là. Et la femme dans la Bible va désigner aussi symboliquement toutes les choses qui nous passionnent. Je renvoie à Dalila, par exemple, la femme de Samson, qu'il a prise de chez les Philistins, et qui est pour lui un piège. On voit que Samson, en fait, c'est comme si ses passions, symboliquement, bien sûr, après l'histoire est ce qu'elle est, mais à être trop entraîné par ses passions et à ne pas savoir suffisamment s'arrêter en disant « je me remets en connexion avec Dieu », se retrouve petit à petit piégé. On a aussi l'exemple de Salomon, qui a beaucoup de femmes. Et on sait que Salomon, c'est un passionné de toutes les sciences, toutes les philosophies et de la sagesse. Et donc c'est quelqu'un qui n'a pas su mettre un frein à une idolâtrie, en fait, à une passion qui était bonne au départ, à des passions, mais qui est devenue de l'idolâtrie, et qui l'ont fait dévier. Le quatrième point devant la montagne, il faut laver son manteau. Paul, quelques siècles plus tard, nous explicite, à mon sens, quel est ce manteau. Quand il dit dans la lettre aux Colossiens, chapitre 3, il dit « revêtez votre cœur de tendresse, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience ». Donc tendresse, bonté, humilité, douceur, patience. Cela revient en fait à avoir les vertus du Christ, mais pour faire plus simple, la vertu centrale, c'est de faire attention à notre cœur en étant humble. Je pense que c'est vraiment celle-là qui est la pièce maîtresse de ces vertus, c'est de travailler notre humilité, de se poser toujours la question « est-ce que j'ai l'attitude que Jésus aurait en prenant tout le temps la dernière place, quoi qu'il m'arrive ?» Parce que le manque d'humilité dans cette période où le Seigneur revient va être particulièrement visible. C'est-à-dire que c'est comme si, dans la fumée, la seule chose qui restait visible, c'est les gens qui manquent d'humilité, comme s'ils étaient habillés en rouge, et comme si, avec la fumée, il fallait mettre des lunettes infrarouges, et qu'on ne voyait que les gens qui étaient en rouge, en fait, vous voyez. Et là, ça va être une protection très forte d'avoir un manteau d'humilité permanent. Donc les quatre points devant une montagne qui fume, c'est-à-dire devant un événement qui va nous dérouter fortement, particulièrement en cette période, c'est d'être consacré par le fait de faire réparation régulièrement, d'être en fait de demander souvent pardon, même si on n'est pas sûr d'avoir fauté, mais de dire au cas où, je demande pardon pour moi et pour les autres. La deuxième, c'est de ne pas se précipiter, donc de ne pas toucher la montagne, de ne pas monter dessus, mais en même temps d'être prêt pour se mettre en route quand on aura le bon signe. Troisièmement, fuir l'idolâtrie dans le sens où réussir à mettre un frein aux choses qui nous passionnent, réussir à dire est-ce que je suis prêt quand je commence cette chose passionnante à manger quelque chose de bon ou faire n'importe quoi qui m'intéresse et qui n'est pas forcément en connexion directe avec Dieu, est-ce que je suis prêt à stopper au bon moment mon temps que je prends si quelqu'un m'appelle, a besoin de moi ou si je sens que le Seigneur me demande d'éteindre ma télé quoi. Et quatrièmement, d'être attentif à son cœur sur les vertus que j'ai décrites, mais principalement l'humilité. Cela revient, en fait, tous ces points-là, à construire une demeure pour Dieu. Cette demeure, c'est nous-mêmes. J'ai trouvé une parole qui résume ces quatre points, ce régime particulier adapté à cette période où le Seigneur revient. C'est dans le psaume 24. Il est dit « Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint, l'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles et ne dit pas de faux serments. » au cœur pur, c'est-à-dire qui fait réparation, aux mains innocentes, c'est-à-dire qui ne va pas aller trop vite à avancer alors que c'est pas encore le moment, qui ne livre pas son âme aux idoles, c'est-à-dire qui va réussir à jouir de la vie sans, je dirais, en arrivant à s'arrêter au bon moment, et ne dit pas de faux serments, c'est-à-dire qui va être d'une humilité, je dirais, qui va entraîner tout le reste de manière positive, quoi, qui ne va pas tricher sur son apparence, qui ne va pas faire des choses en décalage avec les nécessités, parce qu'il va être humble. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint ? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles et ne dit pas de faux serments. Grand 1, petit 3, la nuée lors des 10 plaies d'Égypte. Alors, on en a parlé en long, en large et en travers la dernière fois, mais c'est pour montrer en quoi ces choses positives, cette fumée positive, était perceptible en Égypte. Le peuple hébreu s'est retrouvé dans une lente agonie en Égypte, et on a évoqué le fait qu'ils avaient très probablement peu à peu purifié leur fonctionnement durant les premières plaies, et qu'ils avaient reçu de plus en plus de grâces lumineuses dans cette ville de Gozen, où ils furent même préservés des derniers fléaux. Et bien cette grâce de lumière va culminer devant la mer Rouge, au moment de la colonne de nuée. Là, je suis dans l'Exode, chapitre 13. Ils partirent de Soukhot et campèrent à Étham, en bordure du désert. Le Seigneur lui-même marchait à leur tête, colonne de nuée le jour, pour leur ouvrir la route, colonne de feu la nuit, pour les éclairer. Ils pouvaient ainsi marcher jour et nuit. Le jour, la colonne de nuée ne quittait pas la tête du peuple, ni la nuit, la colonne de feu. Les Hébreux vont donc traverser la mer Rouge à pied sec, et depuis la colonne de nuée, l'ange du Seigneur va bloquer les roues des chars des Égyptiens et leur rendre la conduite pénible. Comme au pied du Sinaï, ici, en fait, le Seigneur va appeler une partie des personnes seulement. Il va s'agir ici de l'ensemble du peuple israélite qui va être appelé à avancer. La mer s'ouvre, on a le signal, on avance. Et il traverse la mer Rouge, alors que les Égyptiens n'ont pas été appelés. Probablement parce qu'ils ne sont pas prêts, selon les quatre critères qu'on a énoncés tout à l'heure. Et alors la tradition juive dit qu'il y a certains Égyptiens qui sont venus avec les Hébreux, parce qu'ils se sont mis à les suivre, et eux, ils devaient être avec les Hébreux, je pense. Mais l'armée de Pharaon, Dieu les prévient à travers ses roues de chars faussés, qu'il ferait mieux de reculer. Peut-être que certains ont fui, ont déguerpi, en disant « Non, je vois que c'est un signe qu'il faut que j'arrête ». Mais en tout cas, ceux qui ont persisté, ils vont être balayés par la mer. Ceux qui, en fait, sont montés sur la montagne alors qu'ils n'étaient pas appelés. Voilà. Petit 4, la nuée remplit la tente de la charte. Alors, on va retrouver une situation un peu similaire avec le fait que Moïse construise une tente pour le Seigneur. C'est la fameuse demeure où il va y avoir la nuée qui va venir. On va retrouver l'étape de la longue préparation, de rassembler les matériaux, de construire, etc., dans Exode 40. Et arrive le jour tant attendu. La nuée couvrit la tente de la rencontre, et la gloire du Seigneur remplit la demeure. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente de la rencontre, car la nuée y demeurait, et la gloire du Seigneur remplissait la demeure. On note ici que même Moïse, qui pourtant parlait avec Dieu, ne pouvait pas rentrer dans la tente de la rencontre à cause de la nuée. Il devait attendre que le Seigneur l'appelle, et le Seigneur lui faisait comprendre lorsque la nuée se retirait. Je pensais à la nuée qui se retire. Pour nous, ça peut être, par exemple, dès que je sens que l'angoisse que j'ai dans le cœur s'estompe. Là, j'ai un signe que je peux me remettre à avancer, quoi. C'est-à-dire que il est dit « poursuit la paix, recherche là ». J'ai le signe de la paix. Donc, même si j'ai pas forcément le même regard aujourd'hui, vous et moi, on voit pas forcément la nuée tous les jours qui remplit le temple, je dirais que l'état de notre cœur va être un signe très fort que la nuée avance, se retire, qu'on peut avancer, ou qu'il faut s'arrêter, quoi. En tout cas, Moïse a construit une demeure qui était nécessaire pour que la nuée reste en permanence avec le peuple pour le guider. En fait, cet événement où le Seigneur vient avec puissance, cette forme de montagne que Moïse doit franchir, c'est-à-dire demander au peuple de rassembler de l'argent, des matériaux, de construire, comme dit le Seigneur, etc. Une longue préparation. Et le don qui est fait à ce moment-là, c'est de construire quelque chose qui fait qu'on a le Seigneur en permanence. Vous voyez, le Seigneur vient pour donner quelque chose de grand. On a la même chose, petit 5, avec Salomon qui construit un temple. Et Salomon, il va y avoir la nuée qui remplit le temple et les prêtres qui ne peuvent pas momentanément rentrer dans le temple. Et Salomon va faire cette belle prière, qui est dans le premier livre des Rois, chapitre 8. Le Seigneur a dit vouloir séjourner dans l'obscurité, c'est donc bien pour toi que j'ai bâti une maison princière, une demeure où tu habiteras toujours. La pensée se précise. C'est-à-dire que le projet du Seigneur, quand il y a une montagne qui fume, c'est en fait de poser des pierres supplémentaires de la construction d'une maison où vienne résider le Seigneur. Et cette maison, ça va être nous-mêmes, en fait. C'est comme s'il y avait des pierres supplémentaires qui rentraient dans notre cœur à chaque épreuve, en fait, où on va avoir un temps de préparation avant l'épreuve. On va se retrouver devant l'épreuve. On va attendre que notre angoisse s'en aille, réfléchir, purifier notre cœur selon les critères que j'ai énoncés. Et à un moment, on va surmonter avec succès cette épreuve. Et bien voilà, on a le Seigneur qui a fait sa demeure un petit peu plus en nous. Petit 6, la transfiguration. Cet épisode raconté par 3 évangélistes. On remarque que 3 disciples seulement sont appelés parmi les 12. Peut-être ceux qui étaient les plus prêts, selon les critères donnés tout à l'heure. L'un des 3 évangélistes précise qu'ils étaient montés sur la montagne pour prier. Et c'est vrai que, enfin, c'est pour ça que je me dis ça, c'est qu'ils devaient vadrouiller la route jour et nuit, enfin, pas forcément toutes les nuits, mais ils devaient être fatigués de prêcher l'évangile, etc. Et j'imagine bien, qui veut venir avec moi, en plus de tout ce qu'on a fait, pour prier, quoi. On va monter sur la montagne. Peut-être que tous n'avaient pas ce surplus d'énergie pour gravir cette montagne, quoi. Ils sont décrits comme saisis de crainte et écrasés de sommeil devant cette nuée. On retrouve, moi je parlais de l'angoisse tout à l'heure, mais je pense que écrasés de sommeil ou saisis de crainte, le sommeil ça va être l'envie d'arrêter de se battre, qu'on va ressentir dans cette période particulière où on voit les nouvelles qui s'accumulent, on voit... Et pour moi, le sommeil, ça représente ça. Écrasé de sommeil. Ou de tristesse. Ou de crainte. Gethsémani, on aura quelque chose de similaire. Ils étaient endormis de tristesse. Il y a quelque chose en eux qui avait envie d'arrêter de croire, quoi. Voilà, je... Bon. Petit 7. L'ange de l'Apocalypse qui fait monter la prière des saints. On est dans Apocalypse... Chapitre 8, on parle d'un silence d'une demi-heure, puis d'un ange qui se place à côté de l'autel avec un encensoir d'or, et il lui fut donné quantité de parfums pour les offrir avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Et par la main de l'ange monta devant Dieu la fumée des parfums avec les prières des saints. Puis l'ange prit l'encensoir et le remplit du feu de l'autel, il le jeta sur la terre, il eut des coups de tonnerre, des fracas, des éclairs et un tremblement de terre. Alors, premier élément, le silence d'une demi-heure peut être vu, je pense, comme un moment qui surprend tout le monde, devant la montagne qui fume dont nous parlions tout à l'heure. C'est l'action un peu imprévisible du Seigneur et de ceux qui l'envoient, à travers des gouvernements qui vont prendre des décisions, à travers des choses qui peuvent être déroutantes. Voilà, le Seigneur a envoyé des messagers, a envoyé des événements, et on se trouve bouche bée, et il y a ce silence d'une demi-heure. L'ange, pour le coup, peut représenter chacun d'entre nous dans notre rôle de prêtre. Effectivement, dans les moments difficiles de cette période que nous traversons, quand nous le faisons avec le Seigneur, en gardant la tête sur les épaules, nous pouvons offrir toutes choses qui nous arrivent, et surtout que ceux qui ne connaissent pas Dieu peut-être n'arrivent pas à offrir certaines choses, puisqu'ils ne connaissent pas Dieu, ils n'ont pas cette accoutumance de lui parler, et donc on va pouvoir l'offrir ça. Et plus c'est dur à offrir, plus ça vaut cher. Par exemple, je suis avec quelqu'un, admettons que moi le masque qu'on nous impose, j'ai beaucoup de mal à le mettre parce que ça m'empêche de respirer, et je ne comprends pas pourquoi on nous le demande. Admettons que je suis en face d'une personne pour qui, à l'inverse, c'est important d'avoir ce masque pour une raison ou pour une autre. Eh bien, en arrivant à peut-être à détecter les raisons qui peuvent motiver cette personne, par exemple un désir de suivre les lois qu'on donne dans la société, eh bien, cette petite offrande, je peux la faire, dire « Seigneur, je vois bien que c'est difficile pour moi de faire ça, de passer par-dessus mon envie de, je dirais, de rentrer dans le lard de cette personne ou d'être un peu désagréable avec elle, de dire « Seigneur, je t'offre son envie de bien faire, parce qu'après tout, voilà le bien qu'elle est en train de faire, le bien que tu me donnes de voir, et en faisant ça, je joue un rôle de prêtre. » Le feu de l'autel dont nous parlions, l'ange, donc il prend du feu de l'autel et il le jette sur la terre, c'est que par notre offrande, il y a une connexion supplémentaire entre ces âmes qui sont un peu perdues et Dieu qui les embrasse d'amour. Et c'est cela qui déclenche les coups de tonnerre, les fracas, les éclairs et le tremblement de terre. C'est-à-dire que c'est comme si nous allions embraser leur cœur, en fait. Le feu de l'autel, c'est la réalité selon laquelle un prêtre va propager le feu de l'Esprit-Saint dans le cœur de quelqu'un qui est encore non enflammé. Et on va transmettre de l'amour à la personne. Et si je prends l'exemple inverse, ça va être je suis une personne à l'entrée de la médiathèque et mon boulot c'est de contrôler les gens s'ils ont leur passe par exemple ou s'ils ont le masque, et puis il y a quelqu'un qui fait exprès de venir sans masque, et ben je vais être aimable avec la personne et je vais dire Seigneur merci pour cette personne qui peut-être ça me dépasse les raisons pour lesquelles elle fait ça, mais il doit y avoir une raison. Et en faisant ça, c'est comme ce qui se passe pour Jésus, il posa son regard sur lui, il se mit à l'aimer. Et en faisant ça, il y a une connexion supplémentaire qui se crée pour que le feu divin consume l'offrande que le prêtre est en train de faire. Notre rôle est finalement assez simple, quand on y réfléchit. Mais effectivement, il y a une question d'humilité, et ça, c'est pas si évident que ça. Et l'ange représente aussi, bien sûr, nos prêtres, du moins ceux qui jouent ce rôle avec le souci fort de sauver les âmes, et puis les saints au ciel, et puis la Vierge Marie, qui vont rassembler les prières et offrir cela. Ce rôle de prêtre ici que je décris, c'est le rôle de bénir, d'arriver à aimer le feu de l'autel, d'arriver à offrir, d'arriver en fait à créer une connexion entre Dieu et les personnes qui passent par nous, à être un canal parfait.